Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans cette fin de semaine, nous nous retrouvons dans nos lectures en liberté pour la suite des aventures de Gargantua par François Rabelais. La teneur de la lettre que Grand Gousier écrivait à Gargantua. Le caractère fervent de tes études aurait requis que je n'eusse pas à interrompre de longtemps ce loisir studieusement philosophique. Si la confiance que nous avions en nos amis et alliés de longue date n'avait à présent abusé la quiétude de ma vieillesse. Mais puisqu'un destin fatal veut que je sois inquiété par ceux sur qui je me reposais le plus, force, mais de te rappeler pour protéger les gens et les biens qui sont confiés à tes mains par droit naturel. Car de même que les armes défensives sont inefficaces au dehors, si la volonté n'en est la maison, de même vaines sont les études et inutile la volonté qui ne passe pas à exécution grâce à la vertu en temps opportun et ne sont pas conduites jusqu'à leur accomplissement. Mon intention n'est pas de provoquer, mais d'apaiser, ni d'attaquer, mais de défendre, ni de conquérir, mais de garder mes loyaux sujets et mes terres héréditaires sur lesquelles, sans cause ni raison, est entré en ennemi Picrocole, qui poursuit chaque jour son emprise démente et ses excès intolérables pour des personnes éprises de liberté. Je me suis mis en devoir de modérer sa rage tyrannique, de lui offrir tout ce que je pensais susceptible de le contenter. J'ai plusieurs fois envoyé des ambassades amiables auprès de lui pour comprendre en quoi, par qui et comment il se sentait outragé. Mais je n'ai eu aucune réponse de lui qu'inspirée par une volonté de défiance et une prétention au droit de regard sur mes terres. Cela m'a convaincu que Dieu l'Éternel l'a abandonné à la gouverne de son libre arbitre et de sa raison privée. Sa conduite ne peut qu'être mauvaise si elle n'est continuellement éclairée par la grâce de Dieu qui me l'a envoyé ici sous de mauvais auspices pour le maintenir dans le sentiment du devoir et l'amener à la réflexion. Aussi, mon fils bien-aimé, quand tu auras lu cette lettre, et le plus tôt possible, reviens en hâte pour secourir non pas tant moi-même, toutefois c'est ce que par pitié tu dois faire naturellement, que les tiens, que tu peux pour le droit sauver et protéger. Le résultat sera atteint avec la moindre effusion de sang possible et, si c'est réalisable, grâce à des moyens plus efficaces, des pièges et des ruses de guerre. Nous sauverons toutes les âmes et renverrons tout ce monde joyeux en ses demeures. Très cher fils, que la paix du Christ, notre Rédempteur, soit avec toi. Salut pour moi Ponocrates, Gymnaste et Eudémon. Ce 20 septembre, ton père, Grand Gousier. Comment Ulrich Gallet fut envoyé auprès de Picrocole. La lettre dictée et signée, Grand Gousier ordonna qu'Ulrich Gallet, son maître de requête, un homme sage et sensé, dont il avait éprouvé la droiture et le bon sens en diverses affaires délicates, se rendit auprès de Picrocole pour lui exposer ce qu'ils avaient décidé. Le bonhomme Gallet partit sur l'heure et passait le guet, s'enquit de la situation de Picrocole auprès du meunier, qui lui répondit que les gens de ce dernier ne lui avaient laissé ni coq ni poule et s'étaient retranchés à la roche Clermont. Il ne lui conseillait point de s'avancer plus loin de peur du guet, car leur démence était formidable. Ulrich Gallet l'admit sans difficulté, et pour cette nuit-là, il logea chez le meunier. Le lendemain matin, il se transporta avec un trompette à la porte de la ville forte et demanda aux gardes de le laisser parler à leur roi pour son bien. Le roi, mis au courant de ce message, ne consentit nullement à ce qu'on lui ouvrît la porte, mais se transporta sur les remparts et dit à l'ambassadeur « Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'avez-vous à dire ?» Alors l'ambassadeur tint le discours que voici. La harangue faite à Picrocole par Gallet. Une plus juste cause de douleur ne peut naître chez les hommes que s'il leur arrive tourments et dommages, de là où, à juste titre, ils s'attendaient à une bienveillante sympathie. Et bien que ce ne soit pas raisonnable, ce n'est pas sans motif que bien des gens qui ont connu pareil mécompte ont estimé cet affront moins tolérable que leur propre mort. Et n'ayant pu le réparer par la force ou d'une façon plus intelligente, se sont eux-mêmes privés de la lumière de la vie. Il n'y a donc rien de surprenant si le roi Grand Gousier, mon maître, devant ton intrusion folle et inamicale, est saisi d'un grand serrement de cœur et sent sa raison se troubler. Ce qui serait surprenant, ce serait qu'il ne se soit pas ému des excès sans pareil que toi et tes gens avaient causés à ses terres et à ses sujets. Il n'est aucun exemple d'inhumanité que vous ayez négligé. Ce qui en soi lui cause plus de peine, comme mortel ne saurait en ressentir, du fait de l'affection qu'il a toujours témoignée du fond du cœur à ses sujets. Cependant, autant qu'homme puissant juger, sa douleur est d'autant plus grande que c'est toi et les tiens qui lui avaient causé ces peines, et c'est tort, toi, qui avait conclu avec lui un traité d'amitié comme de mémoire d'homme et de tout temps tes pères l'avaient fait avec ses ancêtres. Cette amitié était jusqu'alors restée inviolée. Vous l'aviez préservée et entretenue, la tenant pour sacrée, si bien que non seulement lui et les siens, mais aussi les nations barbares, poitevins, bretons, manceaux, et ceux qui habitent par-delà les îles de Canard et d'Isabella ont estimé qu'il serait plus difficile de faire crouler le firmament et d'ériger les abîmes au-dessus des nuées que de détruire votre alliance. Elle leur en a tant imposé dans leurs entreprises que jamais ils n'ont osé provoquer, irriter ou léser l'un par crainte de l'autre. Il y a plus. Cette amitié sacrée a tant empli le ciel qu'il y a peu de gens aujourd'hui sur le continent et dans les îles de l'océan qui n'aient nourri l'ambition d'être admis dans cette alliance aux conditions que vous avez fixées vous-même. Ils tenaient à votre union, autant qu'à leurs terres et domaines propres. De sorte que de mémoire d'homme, on a vu prince ni ligue, quelle qu'ait été leur sauvagerie ou leur orgueil, qui ait osé attaquer, je ne dirai pas vos terres, mais celles de vos alliés. Et s'ils ont tenté contre eux sur une décision précipitée, quelque attaque inopinée, à la seule mention du nom et de l'intitulé de votre alliance, ils ont subitement renoncé à leur entreprise. De quelle rage es-tu donc pris à présent? Toute alliance brisée, toute amitié foulée aux pieds, tout droit violé pour envahir ces terres avec des intentions belliqueuses, sans avoir été en rien lésé, bravé ou provoqué par lui ou les siens. Où est la foi? Où est la loi? Où est la raison? Où est l'humanité? Où est la crainte de Dieu? Prétends-tu que ces outrages puissent être cachés aux esprits éternels et au Dieu souverain, le juste rémunérateur de nos entreprises? Si tu le prétends, tu te trompes, car toutes choses doivent tomber sous le coup de la justice. Est-ce un destin marqué par la fatalité ou quelque influence astrale qui voudrait mettre fin à ton bien-être et à ta quiétude? C'est ainsi que toutes choses ont un aboutissement et un point d'équilibre. Et quand elles sont parvenues à leur apogée, elles s'effondrent. Ce sont des ruines, car elles ne peuvent se maintenir plus longtemps dans un tel état. C'est le sort de ceux qui ne peuvent modérer par la raison et le sens de la mesure leur bonne fortune et leur prospérité. Quittent ces lieux immédiatement. Il faut que pour toute la journée de demain, tu sois rentré en tes domaines. Sans provoquer en chemin désordre ni violence, verse 1000 besants d'or pour réparer les dégâts que tu as causés sur ces terres. Tu en donneras une moitié demain et paieras l'autre aux prochaines ides de mai. Entre-temps, tu nous laisseras comme otages les ducs de Tournemoule, de Bassefesse et de Menueil, ainsi que le prince de Gratel et le vicomte de Morpiaille. Comment Grand Gousier, pour acheter la paix, fit rendre les fouasses. Alors le bonhomme Galet se tut. Mais à tous ces propos, Picrocole ne répondit rien d'autre que ces mots. « Venez les chercher, venez les chercher. Ils ont de belles couilles meules. Ils vont vous en broyer de la fouasse. » Alors il s'en retourne auprès de Grand Gousier qu'il trouva à genoux, tête nue, prosternée dans un petit coin de son cabinet, priant Dieu de vouloir bien adoucir la colère de Picrocole et le ramener à la raison sans utiliser la force. Quand il vit le bonhomme de retour, il lui demanda « Ah, mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » « Rien n'est arrangé, » dit Galet. « Cet homme est complètement hors de sens et abandonné de Dieu. »« Certes, » dit Grand Gousier, « mon ami, mais quelle raison donne-t-il de ce débordement ?» Et il ne m'a, dit Galet, exposé nulle raison. Dans sa colère, il m'a seulement touché quelques mots à propos de fouasse. Je me demande si l'on n'aurait pas fait outrage à ces fouassiers. Je veux en avoir le fin mot, dit Grand Gousier, avant que de décider autre chose sur ce qu'il convient de faire. Alors il envoya prendre des renseignements sur cette affaire. Et il s'avéra qu'on avait pris de force quelques fouasses aux gens de Picrocole et que Marquet avait reçu un coup de gourdin sur la tête. Toutefois, le tout avait été bien payé, et c'était ledit Marquet qui avait le premier blessé Frogier d'un coup de fouet dans les jambes. Il apparut juste à tout le conseil qu'il devait user de force pour se défendre. Cela n'empêcha pas Grand Gousier de dire « Puisqu'il n'est question que de quelques fouasses, je vais essayer de le satisfaire, car il me déplaît trop d'entreprendre la guerre. » Il s'enquit donc du nombre de fouasses qu'on avait prises et apprenant qu'il se montait à 4 ou 5 douzaines, commanda qu'on en fît 5 charretées dans la nuit. L'une d'elles serait de fouasses, faites de beau beurre, de beau jaune d'œuf, beau safran et belles épices. Elle serait distribuée à Marquet, qui lui donnait pour le dédommager 700 000 et 3 philippus pour payer les barbiers qui l'auraient pansé. De surcroît, il lui donnait la métairie de la Pommardière à perpétuité, franche pour lui et les siens. Pour conduire et acheminer tout l'équipage, on envoya Galet, qui fit cueillir en chemin près de la Saulaie force grands joncs et roseaux dont il fit garnir le tour des charrettes et armer chacun des charretiers. Lui-même en prit un dans la main, voulant ainsi faire savoir qu'il ne demandait que la paix et venait pour l'acheter.
Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine. Semblablement, où est la reine, qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Gargantua, François Rabelais. Arrivé à la porte, ils demandèrent à parler à Picrocole au nom de Grand Gousier. Picrocole ne voulut jamais les laisser entrer, ni aller leur parler. Il leur fit dire qu'il était empêché, mais qu'il n'avait qu'à dire ce qu'il voudrait au capitaine Touquedillon, lequel faisait mettre à l'affût quelques pièces sur les murailles. Alors le bonhomme lui dit « Seigneur, pour que vous vous retiriez de cette dispute et pour que vous soyez sans excuse de ne revenir à notre alliance première, nous vous rendons sur l'heure les fouasses d'où vient le différend. Nos gens en ont pris 5 douzaines et furent très bien payés. Nous aimons tant la paix que nous vous en rendons 5 charrettes, et celle-ci sera pour Marquet qui formule la plainte la plus vive. En outre, pour le satisfaire pleinement, voici 700 000 et 3 philippus que je lui verse, et pour le dédommagement qu'il pourrait réclamer, je lui cède la métairie de la Pommardière à perpétuité pour lui et les siens possédables en francs à l'eux. Vous avez là le contrat de la transaction et, pour l'amour de Dieu, vivons dorénavant en paix. Retirez-vous en vos terres, de bon cœur, abandonnez cette place à laquelle vous n'avez nul droit, comme vous le reconnaissez bien, et soyons amis comme devant. » Touquedillon raconta le tout à Picrocole et empoisonna de plus en plus ses sentiments en lui disant « Ces rustres ont une belle peur, pardieu. Grand Gousier se conchit, le pauvre buveur. Ce n'est pas son affaire d'aller à la guerre, c'est plutôt de vider les flacons. Je suis d'avis que nous gardions ses fouasses et l'argent et que par ailleurs nous nous hâtions de nous retrancher ici et de poursuivre nos succès. Pense-t-il avoir affaire à une buse pour vous donner ses fouasses en pâture ? Voilà ce que c'est, les bons traitements et la familiarité que vous leur avez précédemment témoigné vous ont rendu méprisable à leurs yeux. Flattez vilain, il vous piquera. Piquez vilain, il vous flattera. » « Là, 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 dit Picrocole, par Saint-Jacques, ils en auront, qu'il soit fait comme vous avez dit. » « D'une chose, dit Touquevillon, je veux vous avertir. » Nous sommes ici assez mal ravitaillés et maigrement pourvus de provisions de bouche. Si Grand Gousier nous assiégeait dès à présent, j'irais me faire arracher toutes les dents. Qu'il en reste seulement 3 à vos gens aussi bien qu'à moi-même, et avec celles-ci, nous n'irons que trop vite à manger nos provisions. Nous n'aurons que trop de mangeailles, dit Picrocole. Sommes-nous ici pour manger ou pour nous battre? Pour nous battre, c'est vrai, dit Touquedillon. Mais de la panse vient la danse, et du lieu où faim règne, force s'exile. Tant jaser, dit Picrocole, saisissez ce qu'ils ont amené. Ils prirent donc argent et fouasse, bœufs et charrettes, et renvoyèrent les autres sans mot dire, sinon qu'ils n'approchent plus d'aussi près pour la raison qu'on leur dirait demain. Ainsi, sans aboutir à rien, ils revinrent vers Grand Gousier et lui racontèrent tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, sinon par vive et forte guerre. Comment certains gouverneurs de Picrocole, par leur précipitation, le mirent en dernier péril. Les fouasses dérobées comparurent devant Picrocole le duc de Menuailles, le comte Spadassin et le capitaine Merdaille, qui lui dirent « Sire, Aujourd'hui, nous faisons de vous le prince le plus valeureux et le plus chevaleresque qui ait jamais été depuis la mort d'Alexandre de Macédoine. « Couvrez-vous, couvrez-vous !» fit Picrocole. « Grand merci, » dirent-ils. « Sire, nous ne faisons que notre devoir. Voici ce que nous proposons. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec une petite troupe de gens pour garder la place qui nous semble assez forte, tant par sa nature que grâce aux remparts dus à votre ingéniosité. Vous diviserez votre armée en deux, comme bien vous comprenez. Une partie ira se ruer sur ce grand gousier et ses gens, et il sera au premier assaut facilement mis en déroute. Là, vous récupérerez de l'argent en masse, car le vilain a de quoi. Nous disons vilain parce qu'un noble prince n'a jamais un sou. Thésauriser, c'est bon pour un vilain. Pendant ce temps, l'autre partie tirera vers l'Aunisse, la Saintonge, l'Angoumois et la Gascogne, et aussi vers le Périgord, le Médoc et les Landes. Sans rencontrer nulle résistance, ils prendront ville, château et forteresse. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz et à Fontarabie, vous saisirez tous les navires et en côtoyant la Galice et le Portugal, vous pillerez toutes les contrées maritimes jusqu'à Lisbonne où vous aurez en renfort tout l'équipage qu'il faut à un conquérant cordieux. L'Espagne se rendra, car ce ne sont que des rustres. Vous passerez par le détroit de Séville et dresserez là deux colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule pour perpétuer le souvenir de votre nom. Ce détroit sera nommé Mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline, voici Barberousse qui devient votre esclave.
Je lui ferai grâce, dit Picrocole.
Assurément, dirent-ils, à condition qu'il se fasse baptiser, et vous attaquerez les royaumes de Tunis, de Bizerte, d'Alger, de Beaune, de Cyrène, et toute la barbarie hardiment. En continuant, vous prendrez en main Majorque, Minorque, la Sardaigne, la Corse et les autres îles du golfe de Gênes et des Baléares, et en longeant la côte à main gauche, vous soumettrez toute la Gaule d'Arbonnaise, la Provence et les pays des Allobroges, Gênes, Florence, Luc et, Dieu protège, Rome. Le pauvre monsieur du pape en meurt déjà de peur. « Oh, par ma foi, dit Picrocole, je ne baiserai pas sa pantoufle. » L'Italie prise, voilà Naples, la Calabre, les Pouilles et la Sicile mises à sac et Malte avec. Je voudrais bien que ces plaisantins de chevaliers, jadis rhodiens, vous résistent pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre.
Ben, « J'irai, dit Picrocole, volontiers à Lorette. »
Point, point, dirent-ils, ce sera tôt au retour. De là, nous prendrons la Crète, Chypre, Rhodes et les îles des Cyclades. Puis nous attaquerons la Morée. Nous la tenons. Saint régnant, Dieu garde Jérusalem, car le sultan n'est pas comparable à votre puissance.
Je ferai donc, dit-il, bâtir le temple de Salomon.
Non, dirent-ils. « Pas encore. Attendez un peu. Ne soyez jamais si prompt dans votre Ne soyez jamais si prompt dans vos entreprises. Savez-vous ce que disait Auguste ? Hâte-toi lentement. En premier lieu, il vous faut tenir l'Asie mineure, la Carie, la Lycie, la Pamphylie, la Cilicie, la Lydie, la Phrygie, la Mysie, la Bithynie, la Carassie, Adalia, Samagaria, Castamoun, Louga, Sébaste, jusqu'à l'Euphrate.
Verrons-nous Babylone et le mont Sinaï ?
Dit Picrocole.
« Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, dirent-ils. Vraiment, n'est-ce pas assez de tracas que d'avoir traversé la mer Caspienne et parcouru les deux Arménies et les trois Arabies à cheval ?»«
Ma foi, disent-ils, nous sommes épuisés. Ah, les pauvres gens !»«
Qu'y a-t-il ? » demandèrent les autres.
« Que boirons-nous dans ces déserts ?» L'empereur Julien et toute son armée y moururent de soif, à ce qu'on raconte.
« Nous avons déjà donné des ordres à tout, dirent-ils. Vous avez 9014 grands navires chargés des meilleurs vins du monde dans la mer Syriaque. Ils arrivent à Jaffa. Là se trouvaient 2 200 000 chameaux et 1 600 éléphants que vous avez pris à la chasse aux environs de Sijil Massa. Quand vous êtes entré en Libye, et de plus, vous avez toute la caravane de la Mecque, ne fournirent-ils pas suffisamment de vin.
Sûr, dit-il, mais nous ne bûmes point frais. Vertu, nom d'un petit poisson, dirent-ils, un preux, un conquérant qui aspire à l'empire universel, ne peut pas toujours avoir ses aises. Remerciez Dieu d'être arrivé sain et sauf, vous et vos gens, jusqu'au tigre. Mais, dit-il, que fait pendant ce temps-là la moitié de notre armée qui déconfie ce vilain, ce poivreau de grand gousier ? Il ne chôme pas, dirent-ils. Nous allons bientôt les rencontrer. Ils vous ont pris la Bretagne, la Normandie, les Flandres, le Hainaut, le Brabant, l'Artois, la Hollande, la Zélande. Ils ont passé le Rhin sur le ventre des Suisses et des Lansquenets. Une partie d'entre eux a soumis le Luxembourg, la Lorraine, la Champagne et la Savoie jusqu'à Lyon. Là, ils ont retrouvé vos garnisons de retour de conquête navale en Méditerranée et se sont rassemblés en Bohême après avoir mis à sac la Souabe, le Württemberg, la Bavière, l'Autriche, la Moravie et la Styrie. Puis, ils ont foncé farouchement sur Lübeck, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Gothie, le Groenland, les pays océaniques jusqu'à la mer Arctique. Cela fait, ils ont conquis les Orcades et mis sous leur joug l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. De là, naviguant sur la Baltique, la mer des Sarmates, ils ont vaincu et dominé la Prusse, la Pologne, la Lituanie, la Russie, la Valachie, la Transylvanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, et les voilà à Constantinople. Oh, « Rendons-nous vers eux au plus tôt, » dit Picrocole, « car je veux aussi être empereur de Trébizonde. » « Ne tuerons-nous pas tous ces chiens de Turcs et de Mahométans ?»« Que diable ferons-nous donc, » dirent-ils, « vous donnerez leurs biens et leurs terres à ceux qui auront loyalement servi. »« La raison le veut, » dit-il, « c'est justice. Je vous donne la Caramanie, la Syrie et toute la Palestine. » « Ah, dirent-ils, « sire, vous êtes bien bon, grand merci, que Dieu vous donne toujours prospérité. » Il y avait là un vieux gentilhomme éprouvé en diverses aventures, un vrai routier de guerre nommé Échéfron. Il dit en entendant ces propos, « J'ai bien peur que toute cette entreprise ne soit semblable à la farce du pot au lait dont un cordonnier tirait une fortune en rêve. Ensuite, quand le pot fut cassé, il n'eut pas de quoi manger. Qu'attendez-vous de ces belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant d'embarras et de barrages ? « Ce sera, dit Picrocole, que nous pourrons nous reposer à notre aise quand nous serons rentrés. » Alors Échéfron dit, « Et si par hasard vous n'en revenez jamais ? Le voyage est long et périlleux. N'est-ce pas mieux de se reposer dès à présent sans nous exposer à ces dangers ?» Et voilà donc pour cette fin de semaine et ce soir, le dernier passage de Gargantua de François Rabelais que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.